Cours de philosophie première par le père Philippe à Saint-Jodard, le 24 octobre 1991.
Nous avions réfléchi sur le point de départ de la philosophie première. Comment nos expériences nous mettent toujours en contact de la réalité dans son devenir. S'agisse de l'expérience interne ou externe. Je travaille. Le travail implique un devenir. L'amour d'amitié, c'est déjà un peu différent. Puisque s'il y a une expérience l'ami, il y a quelque chose qui demeure. Et qui demeure à travers aussi le changement, puisque chaque jour est différent du précédent. Panne d'Areil, d'Héraclite, tout coule, tout change. Sensible à ça. Je me souviens d'une petite exposition qui a eu lieu à Paris, au point de vue de la sculpture, l'Inde et la Grèce. Et on voyait la sensibilité grecque du mouvement dans toutes les sculptures. Et au contraire, l'aspect immobile du Bouddha. Et c'est vrai. Sensible au devenir. Et nous sommes très sensibles au devenir actuellement, dans le monde d'aujourd'hui. Tous les hommes politiques, tout change. L'économie. La très grande difficulté à la fidélité, vous voyez. C'est très net qu'il y a une sensibilité particulière au devenir, parce que nos sens, nos sensations internes et externes demeurent dans le devenir par l'activité absolue dans la poésie de la physique. Et cependant, chacune de ces expériences, si elle est poussée jusqu'au bout et qu'on y réfléchit, nous sommes capables de dire ceci est et j'existe. Alors, en philosophie grecque, on montre avec Parménide. C'est du reste très intéressant de voir que l'être est presque une découverte divine. C'est la déesse qui dit à Parménide, il est, en lui donnant la main. Il y a donc une continuité tant que je reste dans le devenir, je reste dans l'opinion. Et alors, c'est quand même très fort ce poème de Parménide. Heidegger met en pleine lumière et qui était pour lui aussi le choc qui lui a permis de dépasser toute la phénoménologie du CERN. Donc, la sincérité du vécu. Parce que la sincérité, c'est dans le vécu, et le vécu est aussi dans le devenir. Et Parménide et Heidegger comprennent alors la parenté avec Parménide, la découverte de l'être. Cette découverte est donnée comme un don de Dieu. Aristote, qui a un sens très grand de ce qu'est l'intelligence, entre deux, il y a eu Anaxagore. Montre que l'intelligence liée au sens dans son exercice dépasse les sens dans son activité propre. Elle n'est pas liée au devenir, l'esprit. Et c'est beau de voir que pour lui, toute la philosophie première, c'est pour découvrir ce qu'est le nous, l'intelligence et Dieu. Tant que je reste dans le devenir, je ne peux pas atteindre Dieu. Je ne peux pas atteindre un principe. Le principe est au-delà. J'atteins des relations, des lois. Les lois sont dans le devenir. Mais le principe est au-delà. Et l'intelligence est faite pour atteindre ce dépassement dans l'expérience, tout en étant dans l'expérience, de saisir ce qui est dans la réalité existante. Ceci est. Et en même temps, les modernes mettent très en relation, on pourrait dire, à partir de Descartes, le « je suis ». Et c'est pour ça que certains se posent la question, n'y a-t-il pas deux métaphysiques ? C'était la question du père Dominique Dubarle, la dernière année où il enseignait à l'Institut catholique de Paris. Peut-on dépasser cette métaphysique de l'être ou cette métaphysique du « je suis » ? C'est-à-dire, est-ce qu'on doit rester dans cette dualité, qu'il y a une métaphysique qui atteint ce qu'il y a d'objectif au sens le plus fort ? Ceci est l'autre qui s'impose à moi comme quelque chose qui m'est donné. L'ami. L'ami n'est pas l'amour de mon ami. C'est pas si commun que ça de découvrir que l'ami n'est pas l'amour de mon ami. Parce que nous confondons très facilement l'ami et l'amour que j'ai pour lui. Quand je confonds l'ami et l'amour que j'ai pour lui, je reste dans la sincérité. Et la vérité, ça consiste à voir que l'ami est autre que moi. Et que je cherche toujours à dépasser l'amour que j'ai pour lui, pour le découvrir lui. Parce que je l'aime, lui. Et non pas l'amour que j'ai pour lui. Des quantités de personnes confondent les deux. Enfin, c'est tout le grand problème d'aujourd'hui. Parce que si vous confondez l'amour de l'ami et l'ami, le jour où où votre amour devient un peu plus terne, un peu plus nuageux, un peu plus froid. Vous commencez à dire « je ne l'aime plus ». Soyons vrais, je le quitte. Vous voyez, confond vérité, sincérité. La vie n'a pas changé, c'est vous qui avez changé. C'est votre amour qui a changé. Mais votre amour n'a pas atteint le roc. C'est-à-dire l'ami. Et là, on touche le problème le plus actuel qui soit. Je crois fondamentalement. La difficulté extrême que nous avons de sortir de la sincérité pour découvrir la vérité. Et il faut le découvrir à partir de nos expériences. Cet éveil de l'intelligence au-delà des sens. Alors c'est très curieux de voir que, de fait, un théologien comme Occam, 14e siècle, qui a joué un très grand rôle, un franciscain, il y a le dominicain, Thomas d'Aquin, puis le franciscain Occam, et entre deux, il y a Don Scott, lui annonce déjà Kant en montrant que le jugement d'existence n'atteint pas vraiment ce qui est pour lui. C'est que le jugement d'existence, c'est tout simplement l'intelligence qui affirme il y a quelque chose qui m'échappe au-delà de la sensation. Et c'est curieux qu'on retrouve cette expression-là chez Heidegger. Il y a, c'est un avoir. Sincérité du côté de l'avoir. Je possède le vécu. Et Occam, qui a joué un très grand rôle, fait que ce qui est le dépassement de la sensation n'est plus atteint. Je ne peux qu'affirmer cet autre-là, le noumen. C'est à partir de Occam, de fait, parce que Descartes reprendra la même chose qu'Occam, c'est très curieux. L'intermédiaire sera Suarez. Occam, Descartes est en relation avec Occam par Suarez. Et on retrouve chez Descartes quelque chose de semblable. Alors, si la réalité autre que moi m'échappe, il y a quand même quelque chose que je saisis dans l'ordre de l'être. Je suis. Mais le je suis ne me permet pas de découvrir la métaphysique. Oui, donc, c'est très ancien le tournant moderne pour monter jusqu'à Occam. Et tant qu'on n'a pas remonté jusqu'à Occam, on reste dans la sincérité. La sincérité moderne qui fait de terribles ravages au sens profond. Et quand prenez ça pour la foi au point de vue surnaturel, c'est encore la même chose. Alors, vous pouvez dire évidemment que là, il y a la grâce de Dieu qui vous permet de dépasser le sens, le point de vue de la sensation. Mais ceux qui vivent dans une foi au niveau de la sincérité, il y a des jours fastes et des jours néfastes. Il y a des jours où l'horizon est magnifique, on est au ciel. Et le lendemain, on est au purgatoire. Je ne dis pas en enfer, mais au purgatoire. C'est-à-dire qu'on a beau frapper, frapper, frapper. Et on ne voit pas du tout, on est dans la totale obscurité. Alors, essayons. Quand on voit les 10 codes Descartes jusque aux idéologies athées, qui sont nées de notre Europe, essayons de comprendre, parce que je crois que c'est le problème, j'insiste un peu, parce que c'est le problème fondamental. Oui, il faut libérer notre intelligence de cette captivité terrible de la modernité. Et la modernité, elle dépend d'Occam, c'est pas très moderne, ça veut rien. C'est quand même une modernité, puisque c'est la déviation, la grande déviation. Cave a été condamné par l'Église, il ne faut pas l'oublier. L'Église a senti qu'avec Occam, on allait à la déroute. André de Mural, qui a beaucoup travaillé Occam et Luther, dit Occam est plus dangereux que Luther. Il est franciscain, il est resté dans le bateau, lui, quand on est sorti. Mais c'est vrai qu'il y a un lien très fort entre Occam et Luther. Mais et on comprend ça du reste. Et puis après, le fruit de Luther, ben, ce sera les philosophes comme Kant, avec la subjectivité transcendantale, donc la sincérité transcendantale. Et on a la subjectivité transcendantale. Et Hegel. Si je prends l'histoire de la philosophie européenne au niveau métaphysique, donc au niveau de la découverte de ce qui est, c'est très rapide. Parce qu'on voit quelques tournants. En face de ces idéologies athées, où on continue de mettre ce primat de la subjectivité, du vécu, de la sincérité, où on dit, mais non, il y a eu une erreur. Où est l'erreur? À quel moment? C'est, au-delà du devenir, découvrir ce jugement d'existence, ceci. Et la bonne scolastique décadente n'a pas compris ça. Elle est restée au niveau des définitions, donc encore au niveau des idées. Et c'est pour ça que Heidegger dit la métaphysique classique, pour lui la métaphysique classique, c'est celle de Wolf. La métaphysique classique est périmée, il a raison, je suis d'accord avec lui. Wolf est périmée. Alors il faut redécouvrir ce qu'il appelle l'ontologie fondamentale, penser l'être. Mais il ne voit pas que, en disant penser l'être, il reste encore captif de la subjectivité transcendantale. Parce qu'il sépare ce qu'il faut seulement distinguer. Il sépare les temps, tout ce qui est relatif. Les temps, c'est la réalité de nous-mêmes et toutes les réalités du monde. C'est les réalités qui sont dans le devenir. Il sépare les temps et l'être. Et l'être ne peut être saisi que dans le repliement de l'intelligence sur elle-même. Alors, il affirme qu'il n'y a pas d'idée d'être. Là, il dépasse Suarez. Et il veut découvrir à l'intérieur de son intelligence penser l'être. Mais il devient captif de sa pensée. Et l'être devient captif de sa pensée. Donc l'être est relativisé à la pensée. Et c'est pour ça que Heidegger dit, et là, il est logique, j'allais presque dire sincère avec lui-même, mais d'une sincérité métaphysique. Il reste à ce niveau d'un être relatif à la pensée. Si l'être est relatif à la pensée, il est donc captif de la pensée. Il est donc enfermé dans la pensée. Et donc, je ne peux pas parler de Dieu au plan philosophique. Je ne peux pas parler de l'absolu au sens philosophique. J'attends que Dieu se révèle à moi. Position Heideggerienne, position Parménide. J'attends que la déesse vienne. C'est pour ça qu'il dit que ceux qui prétendent, ce que certains l'ont prétendu, Valens, à Louvain, a prétendu que Heidegger était athée. Heidegger a dit pas. que je ne peux pas, par mon intelligence, remonter jusqu'à l'existence d'un être premier. Mais je l'attends. Et je comprends très bien qu'avec sa position, il ne peut faire que ça. C'est loyal. C'est vrai. Dans sa position. Donc, je dirais, c'est sincère. C'est une méta-sincérité. Il attend. Alors, face à tout cela, parce que nous sommes dans ce monde, nous n'allons pas nous mettre dans la planète Aristote. Nous aimons Aristote parce que c'est un génie. Et pour comprendre un peu Thomas d'Aquin, il faut comprendre celui que Thomas d'Aquin a déterré. Parce que Thomas d'Aquin a vraiment déterré Aristote. Il a exigé qu'on le traduise pour lui. Incompétent de travailler Aristote dans le grec directement. Il y a une grande humilité dans ça d'abord. Et il a déterré Aristote puisque on n'avait que le seul, l'Aristote d'Avicenne. Et l'Aristote d'Avicenne n'est plus un Aristote pur, c'est un Aristote habillé à la néoplatonicienne, enveloppé du néoplatonisme. Donc c'est très beau. C'est de la dentelle. Dentelle bretonne. Extrêmement belle, c'est extraordinaire. Mais ce n'est pas la vache bretonne. Ce n'est pas la réalité. C'est encore à travers la pensée qu'on découvre le réel. Plotin, donc, le dernier grand néoplatonicien grec, dit ouvertement, il y a deux expériences. L'expérience externe, l'expérience interne. L'expérience externe est en vue de l'expérience interne. Et l'expérience interne, elle est plus importante. C'est très curieux que notre pape, à un moment donné, dit presque ça. Mais il dit ça parce que je comprends très bien. Parce que la métaphysique de l'être quelquefois n'est pas vu en pleine force. Comme il aime beaucoup saint Thomas, il comprend l'objectivité au-delà de l'aspect subjectif du néoplatonisme. Alors, nous devons en face de ça, nous, essayer de réfléchir sur ce jugement d'existence. Ceci est, je suis. Alors, je réponds à cette question posée par le père Dominique Dubarl, qui maintenant est au ciel, donc ils sont d'accord, parce que du ciel il a une vision tout à fait particulière d'une intelligence libérée de tout devenir. C'est vrai, je crois qu'on sera tous un jour libérés du devenir par la vision béatifique, ne craignons pas, mais il vaut mieux être libéré dès maintenant pour aller plus vite, mais on sera tous libérés. Un jour, on verra Dieu tel qu'il est. Bien mieux que Parménide. Ce ne sera pas seulement la déesse. Et la déesse, vous voyez ce qu'on peut faire, hein, sans faire de syncrétisme. Elle nous prend par la main, la déesse. Elle nous considère comme des petits enfants. Alors, elle nous prend par la main. Et elle nous conduit alors auprès de l'être. Auprès de ce qui est. Il est. C'est extraordinaire de voir que dans la révélation, et je suis persuadé que ça a joué beaucoup pour Descartes, Dieu dit je suis. Il se présente. Il dit son nom. Alors, je prends l'affirmation du je suis telle que les pères de l'Église ont comprise, et non pas telle que les modernes comprennent. Parce que là aussi, il y a une herméneutique moderne. Faut interpréter le je suis de Dieu comme un refus. Je suis pour toi un mur, ne cherche pas à me connaître. Voilà ce qu'ils disent. C'est pas vrai du tout. Mais on traduit l'écriture à travers Occam. Ah, c'est pas vrai du tout ça. Quand dit Dieu a beaucoup de respect pour Moïse, il l'aime. Il sait que pauvre Moïse n'a pas du tout envie de réaliser la mission que Dieu lui demande. Je béguais de manière très astucieuse de refuser d'entrer en métaphysique. Je béguais tant que je suis dans le devenir. Ça, c'est évident. Et Dieu reprend Moïse au-delà de son bégaiement. Parce qu'il pense bien. On peut bégayer et bien penser. Parce que notre intelligence n'est pas liée à notre parole, grâce à Dieu. Parce que quand on a des extinctions de voix, on aurait des extinctions d'intelligence. Ce serait très embêtant. Et c'est juste l'inverse qui se passe, c'est très curieux. Parce qu'on comprend mieux la différence entre la parole et la pensée. Et je crois que tout est là. Ma parole est toujours dans le devenir. Le vieil Aristote le disait. La parole est toujours dans le devenir. Toute proposition est dans le devenir. Mais mon intelligence se sert de la parole. Et mon intelligence peut se libérer de la parole pour être elle-même et saisir ce qui est. Alors, je vous disais ceci, et ça... C'est très bien d'y revenir parce que c'est quand même quelque chose de capital. La différence entre ceci et je suis. De Descartes ou de moi, peu importe. Ce que je peux dire, je suis. Et vous pouvez dire aussi je suis. Et je dis que la philosophie première ne peut pas commencer par le je suis. Mais par ceci est. Mais la philosophie première va progressivement atteindre métaphysiquement le je suis. Et ce sera tout le problème de la personne. Je suis. Quand vous dites je suis profondément, pas simplement en restant sur la parole, mais en pensant à votre je suis, vous touchez un noyau fondamental de vous, de vous-même, mais au-delà du sentiment que vous avez de vous. Hier au soir, avant de vous endormir, vous avez pu dire je suis. Et ce matin, quand vous vous êtes réveillé, vous avez pu dire je suis. Et vous vous êtes posé peut-être la question, est-ce que le je suis d'hier au soir et le je suis de ce matin est le même? Grave question. Très grave question. Il n'est pas le même, puisque le je suis d'hier au soir était fatigué. Et que le je suis de ce matin, ah, enfin on a un peu de repos et on peut aller à la conquête. Donc l'enveloppe du je suis est tout à fait différente. L'enveloppe de mon moi. Et mon intelligence qui est capable de saisir autre chose que cette enveloppe quand elle dit je suis voit qu'il y a une continuité depuis hier jusque maintenant. Il y a une continuité. Et ce soir je dirai je suis. Est-ce que ce sera le même que maintenant? L'enveloppe est différente. Ce soir je serai fatigué. Maintenant je le suis. Donc je peux dire je suis. Et au-delà de cette enveloppe de fatigue ou de bien-être, je saisis quelque chose. Alors pourquoi pas commencer ma philosophie première par le je suis? Là je donnerai la main à Descartes, je serai donc parfaitement français, tandis qu'en prenant ceci, je suis un peu grec. Et je ferai mieux quand même, philosophie européenne. Descartes, le grand philosophe européen. C'est vrai, le grand philosophe européen. Pourquoi je ne commence pas par le je suis? C'est très simple. Quand je dis ceci est, vous voyez que le ceci est très neutre. C'est un nom. Ça peut être tout ce que vous voulez. On dit que Raïssa, l'épouse de Maritain, pensée au petit Minet. Pierre, dit le Minet, il existe, j'existe. C'est quand même pas le même être qui est dans le Minet et en moi. Et c'est comme ça qu'elle a eu l'intuition de l'être. C'est très joli, vous voyez. C'est tout simplement le jugement d'existence. Parce que ceci, ça peut être le chant. Ça peut être la vache. Ça peut être moi. Ceci. Alors, une fois que j'ai compris ça, je vois que « est » a une signification beaucoup plus ample que ceci. Ceci varie. Mais « est » le chat. J'existe. Donc, est a une signification beaucoup plus profonde. Il enveloppe toute la diversité des soucis. Alors, je commence à comprendre que grammaticalement, ceux qui pensent uniquement par le langage, par la grammaire, par la philologie, Heidegger pense beaucoup par la parole, beaucoup par la philologie. C'est souvent le mal allemand, ça. C'est très curieux. Puisque la philologue, c'est le philosophe. J'ai vu la réaction à Fribourg. Le philosophe doit être philologue. Et philologue et philosophe. Alors que non. La philosophie ne se situe pas au niveau de la parole. Elle se situe au niveau de la pensée. Alors, je vois qu'au niveau grammatical, est relatif à ceci. Il est relatif à vache, il est relatif à chat. Mais ma pensée, quand je vois que est peut être attribué à une quantité d'autre chose, est donc l'inverse. En réalité, ceci est relatif à est. C'est le verbe être. La signification du verbe être, la signification du verbe être, qui actue le ceci. Ça n'est pas la même chose pour moi de dire ceci et dire ceci est. C'est pas la même chose. Ceci, ça peut être une idée. Ceci, ça peut être n'importe quoi. Je ne sais pas s'il existe. Donc, ceci est. Il est actuel. Donc vous voyez, le ceci est indéterminé. Et il met donc en pleine lumière et. Et je suis alors, grâce à cette intuition de l'être, à la manière de Raïssa, qui n'est pas une intuition de l'être, qui est tout simplement l'intuition qu'il y a dans le verbe être, quand j'affirme et que je comprends la signification, qu'il y a dans la signification du verbe être un dépassement à l'égard du ceci. Et c'est pas si mal d'avoir découvert ça. Qu'il y a dans le verbe, dans la signification du verbe être, un dépassement. Parce que et la signification du verbe être n'est pas liée à tel ceci. La vache, le chat. Il enveloppe tout. Alors là, je comprends qu'il peut y avoir une intuition de ça. Une intuition de la transcendance de la signification du verbe être. C'est ça qu'on devrait dire. C'est pas l'intuition d'être, mais la transcendance de la signification du verbe être. C'est pas la même chose. Ceci me fait poser la question, alors qu'est-ce que c'est que l'être? Qu'est-ce que c'est que l'être? Qu'est-ce que ça veut dire quand je dis être? D'où l'interrogation, qu'est-ce l'être? La grande interrogation. Ce que Heidegger a mis très en lumière. Qu'est-ce l'être? Vous voyez comment j'arrive à cela? J'arrive à isoler, distinguer être de ceci. C'est très simple. simplement, quand je réfléchis sur toutes mes expériences, je le vois tout de suite. Et donc, puisque je l'isole, je le mets en pleine lumière, je le thématise. Qu'est-ce que c'est que l'être? Je passe du présent à l'infinitif, grammaticalement. Et au point de vue de l'intelligence, je passe du concret à l'abstrait. C'est la même chose, et ça te va donner l'exemple, et c'est très juste. Blanc, blancheur. Le blanc du mur, ce mur est blanc. Ce mur est blanc. Blancheur n'est pas lié au mur. Il est pris en soi. Mais j'abstrais, je l'isole du mur, de la neige.
Parce que quand je
dis je suis. Je me distingue, tu es. Il est. C'est pas la même chose du tout. Le je n'existe que d'une manière individuelle. Mon je suis me met dans mon individualité la plus forte et dans ma personnalité la plus forte. Donc, dans le je suis, il y a, comprenez bien, tentation d'identifier le je et l'être. Et par le fait même de ramener l'être au je. Et par le fait même de tomber dans la subjectivité transcendantale. Parce que je ne peux pas faire comme je fais pour ceci est, ou ceci est neutre. Et tout ce qu'on veut. C'est pour ça que la méta-expérience du ceci est, à travers toutes les autres expériences, objective l'être. Tandis qu'au contraire, dans le je suis, je ne peux pas. Il est perdu dans l'immanence du je. Mais c'est intéressant de comprendre les deux et de bien saisir que la métaphysique ne pourra vraiment naître qu'à partir de ceci. Vous n'avez qu'à réfléchir sur ces deux. Et alors ça éclaire mieux cette méta-expérience du ceci est. Quand donc je pars du ceci est, qui est distinct de il y a, l'expression de Heidegger, es gibt, il est donné, il y a, ceci est donné. C'est pas la même chose, voyez. Dans le langage, c'est très net, c'est l'avoir et l'être. Il y a quelque chose. Vous dites ça dans la nuit, vous vous levez, quand vous changez de lieu, ce qui m'arrive assez souvent, de changer de lieu. Et on se réveille la nuit, brutalement. Où est-ce qu'on est? On voit plus très bien, tu vois. Avant de savoir, on se tape la tête sur le mur ou sur un meuble, parce qu'on croit que c'est rangé de telle manière, c'est pas du tout comme ça. Il y a, c'est ce que vous dites, il y a un meuble, il y a un obstacle. Il y a un obstacle. C'est tout. Qu'est-ce que c'est? J'en sais rien. Il y a. Toute la différence de il y a, qui est le mur sur lequel on se connaît tête, et ceci est. Pas du tout la même chose. Mais qu'à faire l'expérience, vous la faites fatalement. Hein. Première nuit passée à Saint-Jodard, on se réveille dans un cauchemar effrayant. Et puis on se casse la tête. Il y a là un meuble, espèce d'imbécile. Hein, on s'aperçoit à ce moment-là qu'on n'est pas chez soi. Il y a. Ceci est. Il y a une qualité toute spéciale de l'intelligence. Quand l'intelligence dit ceci est, vous voyez, ce n'est pas du tout l'obstacle. L'être n'est jamais obstacle. L'exister n'est jamais obstacle, puisque c'est l'exister qui me permet de connaître tout ce qui est. S'il était possible, il serait dans la tête de quelqu'un, du vieux matheux. C'est possible, c'est possible. L'être mathématique, il ne se balade pas. Vous ne dites jamais par rapport à l'être mathématique, il y a un être mathématique. Non, parce qu'il est dans la tête du mathématicien. Ça n'est possible, il n'existe pas, il est possible. Il y a, ah, c'est l'obstacle. C'est curieux cette transformation de ceci est en il y a, où on voit tout de suite quelque chose qui est un mur, qui me résiste et qui peut devenir un ennemi. L'autre, c'est l'enfer. Vous voyez, le succès d'un des deux, il y a, qui devient l'autre de Sartre, c'est l'enfer. C'est vrai, le meuble sur lequel vous vous cognez la nuit en vous faisant mal, c'est l'enfer. Il y a là un meuble, il y a là un obstacle, je n'avais pas vu. Donc c'est quelque chose qui résiste. Ceci est ne résiste jamais. Il y a une espèce de connaturalité, mais très très profonde, entre l'être et mon intelligence. Quand j'arrive à dépasser cette enveloppe du devenir, et que je comprends que l'être est dans le devenir, parce que le devenir est, mais l'être transcende le devenir. Il est immanent au devenir, il n'est pas en dehors du devenir. Cette réalité n'existe que dans son devenir. C'est vrai. La matière n'existe que dans le devenir. Le monde physique n'existe que dans le devenir. Tout à fait d'accord. Mais il est. Un pur devenir est impensable. Impensable. Et c'est parce que ce devenir existe. Il est. Et il peut y avoir quelque chose qui existe au-delà du devenir. Parce que l'être que je saisis est source du devenir. Il dépasse le devenir. Alors voyez, je pose la question, qu'est-ce que c'est que l'être? Mais pour Heidegger, la question, qu'est-ce que c'est que l'être? Il n'y a pas de réponse. C'est là la limite de la philosophie heideggerienne. Pourquoi? Parce que l'être n'est bien que dans mon intelligence. L'être n'apparaît que dans mon interrogation. Qu'est-ce que c'est que l'être? Si l'être n'apparaît que dans mon interrogation, je suis prisonnier de mon interrogation. Alors je pourrais penser indéfiniment qu'est-ce que c'est que l'être? Qu'est-ce que c'est que l'être? Et j'y arriverai pas, je pourrais pas. Je peux pas en sortir. Parce que l'être n'est être que par mon intelligence. Tandis que, si je comprends qu'il y a avant l'interrogation, avant ce jugement, ceci est, à travers toutes mes expériences, à travers l'amour que j'ai pour quelqu'un, cet amour existe en moi. Cet amour provient de l'ami qui a suscité en moi un amour. Et donc cet ami, il existe. Donc au-delà de l'intentionnalité de l'amour que je possède en moi, il est. Si je comprends qu'un jugement d'existence, ceci est antérieur à l'interrogation, l'interrogation ne me coupe pas de l'expérience. Je peux donc revenir à l'expérience. C'est exactement ce que je fais quand je distingue blanc, blancheur. Pour enrichir la signification de blancheur. Mais faisons de multiples expériences. La neige est blanche. Le visage est blanc. Cette chemise est blanche. Cette page d'écriture avant d'écrire, elle est blanche. Après, il y aura du gris dessus. Elle est blanche. Toutes les expériences de réalité blanche enrichissent la blancheur. Celui qui n'aurait fait qu'une seule expérience, le visage est blanc, identifierait le visage et le blanc. S'il fait de multiples expériences, il n'identifie plus le blanc au visage. Et il peut dire qu'est-ce que c'est que la blancheur. si vous identifiez être et devenir, c'est parce que de fait, vous n'avez fait qu'une seule expérience de l'être dans le devenir. Si vous commencez à faire diverses expériences de ceci est, l'ami est, je suis, c'est tout ça des expériences multiples. La vache, Raïssa, le chat plus exactement, Raïssa. Alors, je commence à dire, mais oui, l'être a une signification distincte de ceci est. Et je peux, en voulant connaître la signification, qu'est-ce que c'est que l'être, je reviens à mon expérience. Mais je reviens à l'expérience d'une nouvelle façon, dans la lumière de l'interrogation.